Bonjour, au microphone Bruno Guglielminetti, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 17 juin 2022. Cette semaine, encore des entrevues inspirantes avec des gens du numérique et un intrus, vous allez comprendre dans un instant. On va parler avec Marc Baudet, le patron de Turbulent, une boîte web, comme on les appelait à l'époque, qui célèbre justement 20 ans dans le domaine. Et vous allez voir, hein, la clé pour tenir aussi longtemps et croître avec le temps, c'est d'être sensible aux signaux et être agile pour bouger, changer au bon moment. Autre entrevue inspirante, c'est celle du patron d'Amilia, une entreprise québécoise qui propose une plateforme conçue pour la vente d'activités récréatives. Et pour ce qui est de mon intrus, quelqu'un qui n'a vraiment rien à voir avec le monde numérique, de près ou de loin, j'exagère un peu, c'est Joël Lebigo, l'animateur de 76 ans qui prend sa retraite du micro de Radio-Canada et qui m'accordait une des rares entrevues à quelques jours de quitter son micro. Imaginez-vous, pour ceux qui le connaissent, je l'ai fait parler de technologie. Oui, vous allez entendre ça. J'aurai ça pour vous après le retour sur l'actualité numérique de la semaine. Et il y a mes collègues qui sont aussi là également. Stéphane Ricoul qui profite du Grand Prix de F1 de Montréal pour nous parler de la transition de cette industrie vers un modèle d'affaires durable. Et pour rester dans le vert, Jean-François Poulin nous présente des gens qui travaillent à concevoir des plateformes numériques éco-responsables. Alors voilà pour le contenu de cette édition de Mon Carnet. Maintenant, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations à Gaston Sirois, Jean-Pierre Lachaine, Roger Bérubé, Alain Vallière et Philippe Gervais. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, Microsoft a carrément fermé un chapitre de l'Internet avec le retrait de la circulation du logiciel de navigation Internet Explorer. Ça fait 26 ans que le logiciel permettait aux internautes d'accéder à du contenu sur le web. Le furteur a eu ses bonnes et moins bonnes versions, mais somme toute, il a toujours été un joueur dans le paysage. Internet Explorer, pour moi, c'est avant tout un symbole, celui du coup de barre que Bill Gates a donné à Microsoft un certain 26 mai 1995 en envoyant un mémo interne à tous les employés de l'entreprise, leur annonçant que maintenant Microsoft allait avoir comme but l'Internet comme priorité. On connaît la suite, Internet Explorer a assez facilement écrasé le premier furteur commercial qui était Netscape et a ensuite a dominé longtemps la scène, en fait jusqu'au moment où Google a sorti son logiciel de navigation Chrome. Depuis mercredi, c'est par défaut son successeur, le furteur Edge, qui prend officiellement la relève. Mais ce changement ne devrait pas malheureusement permettre à Edge de remonter facilement la pente. Aujourd'hui, quand on regarde le marché des furteurs dans le monde, Edge se bat contre Firefox pour garder la troisième place. Google Chrome est loin devant avec ses 65% de part de marché et Safari décroche le second rang avec 19% de part de marché. Edge détient 4% et Firefox 3%. Tiens, parlant de notes internes, il y en a une qui a fuité de chez Facebook cette semaine et on a appris avec cette note que la plateforme allait changer son fil d'actualité en s'inspirant fortement de celui de TikTok. Je parle du fil de nouvelles que vous voyez par défaut lorsque vous vous branchez sur Facebook, que ce soit par le web ou par l'application mobile, l'endroit où vous prenez des nouvelles de vos amis, de vos contacts, de votre famille. Eh bien, d'après une note interne que le site The Verge a obtenue, le fil d'actualité ne vous offrira plus en priorité des publications de vos connaissances ou encore celles des pages que vous suivez, mais plutôt le fil va nous présenter des publications provenant d'un peu partout, incluant celles de comptes que nous ne suivons même pas, baser tout ça sur nos intérêts et notre comportement vis-à-vis de telles publications. Autre nouveauté, ou devrais-je dire rétro-pédalage, la direction de Facebook veut réintégrer le service de messagerie Messenger à l'application Facebook. C'est comme s'il y avait un changement de patron et là, le nouveau patron avait décidé de remettre ça comme c'était avant. Je vous rappelle quand même que depuis 2015, Messenger était autonome. Maintenant, est-ce que ça va donner le goût aux plus jeunes d'utiliser Facebook, même d'y revenir? Je suis pas certain. Mais en attendant, l'âge moyen des utilisateurs de Facebook est toujours à la hausse. Et selon une étude signée Diploméo, seulement 28% des 16-18 utilisent encore Facebook. Et dire que ça a déjà été cool d'être sur Facebook. Il n'y a pas eu que des fuites cette semaine chez Meta, la maison mère de Facebook. Le géant américain a également partagé les résultats d'un rapport sur l'impact de la pandémie sur nos façons de se connecter pour communiquer entre nous. Avec un titre comme « La grande réinitialisation des relations », ça donne pas mal le ton du document. Dans le rapport, on apprend notamment que 72% des gens ont redéfini leur cercle d'amis proches. Il semble que les gens ont décidé de miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif, pour citer mon collègue Stéphane Ricoul. Pour Meta, un des grands gagnants de cette réinitialisation, ce sont les marques qui pourraient se transformer en facilitateurs de relations, sans oublier que, comme auparavant, les marques pourraient servir de levier pour la création d'une mémoire collective. Au Japon, depuis cette semaine, les internautes qui sont reconnus d'avoir été l'auteur d'insultes en ligne seront passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende de 300 000 yens. Ça, c'est environ 2 900 $ ou 2 000 €. Le Parlement japonais a passé une loi qui classe les insultes en ligne comme un crime. Une décision forte qui n'est pas arrivée toute seule quand même. Il aura fallu la mort d'une influenceuse japonaise victime de cyber-intimidation pour pousser les élus à bouger en sens face à la réaction de l'opinion publique. De l'autre côté du Pacifique, on apprenait jeudi que la Maison-Blanche, de son côté, va lancer un groupe de travail pour lutter contre le harcèlement en ligne. Le groupe a comme mandat de voir ce qui peut être fait pour lutter contre le cyberharcèlement et la cyberintimidation. À la fin des travaux, le groupe devra formuler des recommandations en sens aux organismes gouvernementaux, aux réseaux sociaux, aux écoles et autres plateformes en ligne. Un des aspects intéressants du mandat du groupe de travail, ce sera de voir comment les personnes sont visées par ces abus en ligne et comment on pourra tenir responsables autant les individus qui commettent ces actes que les plateformes sur lesquelles ils les communiquent. J'espère que cette démarche aura des échos ailleurs dans le monde et notamment chez nous, parce que c'est quand même inconcevable qu'en 2022, on laisse encore des imbéciles intimider ou harceler des gens en ligne. Il n'y a pas que Facebook qui est obsédé par TikTok, YouTube aussi. Et cette semaine, YouTube était pas mal fier de laisser savoir que son service Short, directement inspiré, pour ne pas dire copié de TikTok, faisait aujourd'hui mieux que TikTok. YouTube affirme que maintenant, les Shorts atteignent plus d'1,5 milliard d'utilisateurs mensuellement, comparativement à 1 milliard par mois chez TikTok, selon les derniers chiffres disponibles de chez TikTok. Alors, comme la semaine dernière avec François Chartier, je vous offre un avant-goût aujourd'hui d'une entrevue que je vais vous proposer lundi. Cette semaine, je vous propose un court extrait de ma rencontre de 30 minutes avec l'animateur Joël Lebigot. En toute transparence, je dois vous dire que depuis septembre dernier, je réalise son émission du samedi et Joël et moi, on se connaissait de mon ancienne vie radio-canadienne alors que j'avais réalisé son émission à quelques occasions, sans parler des fois où il m'avait invité à son émission pour parler technologie. Bref, à la veille d'éteindre son micro de Radio-Canada, il m'a accueilli dans son salon et on a discuté une bonne demi-heure de différents sujets et ça a donné un entretien pas mal précieux à mes yeux qui vous permet de découvrir le Joël que je connais. Alors ça va être pour lundi. Entre-temps, je vous propose d'entendre immédiatement ma première question qui, évidemment, avait un lien avec la technologie. Moi, ce que je trouve fascinant pour avoir passé la dernière année avec toi, c'est ton amour-haine versus la technologie. Et je m'explique. Oui. Depuis longtemps, tu fais de la radio, que tu as fait de la télé, c'est parce qu'il y avait de la technologie. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a inventé, il y a Marconi qui a inventé cette technologie-là pour communiquer avec les gens. Tu as su l'utiliser. Puis de l'autre côté, évidemment, il y a des technologies qui sont plus neuves, qui te tombent sur les nerfs. Mais j'aimerais ça savoir, toi, ta relation avec la technologie, que ce soit à la radio ou même dans certaines passions, par exemple le bateau.
Non. C'est un bon exemple, le bateau. Par exemple, j'ai fait des traversées de l'océan sur des bateaux qui étaient de haute technologie. C'est-à-dire qu'on avait installé des technologies nouvelles, ça c'est en 84, et on devait communiquer par Terre-Neuve qui venait vers Montréal, et je trouvais ça extraordinaire. Ils avaient même installé à Terre-Neuve un poste de radio de Radio-Canada, une station, et nous, on, du bateau, on communiquait directement avec, le, avec Terre-Neuve, puis eux autres renvoyaient ça à Montréal. Et, non, je trouvais ça fabuleux. J'étais, je me souviens même que quand on a perdu le mât, on s'est retrouvés avec une communication difficile, mais ça marchait par moment. Et on est entré en plein bulletin de nouvelles parce que le technicien s'était trompé, etc. Puis là, on était à peu près sous parce que les Portugais nous avaient donné à boire et à manger. On n'avait plus rien à boire. Et puis, on était un peu gurlots, puis on est entré en plein bulletin de nouvelles de midi. Alors, la technologie, on s'en est servi pour avoir un bateau de course parce que si on n'avait pas pu communiquer, Radio-Canada n'aurait jamais marché à commanditer un bateau dont on entend parler au départ et à l'arrivée. Alors, on avait des systèmes qui étaient inventé là pour cette circonstance-là. La première traversée en 83, ça n'avait pas marché, catastrophe. Ils avaient même pensé envoyer un avion, un hélicoptère pour nous communiquer, de revenir, pour nous dire de revenir parce que ça ne fonctionnait pas. Bon, alors c'était nouveau. En 83, 84, c'était vraiment très nouveau. On naviguait encore avec des sextants. On naviguait avec des systèmes qui nous permettaient d'attraper des ondes pour voir où on était. Donc, la technologie était là, était présente, et puis on l'utilisait avec plaisir. Et au contraire, c'était rassurant. Un peu comme c'est rassurant maintenant d'avoir autant de technologies pour autant de choses. Ce qui m'agace dans la technologie, c'est le côté mode. C'est-à-dire que parce que tout d'un coup on invente quelque chose, il faut y aller, il faut entrer dans le moule, entrer dans la mode. Et autant aujourd'hui, on fait de la place aux minorités, hein, l'LGBT, couleur, genre, tout ça. Et on dit, voilà, on a une avancée, on dit, on a de la place pour les minorités, minorités anglaises au Québec, minorités françaises au Canada. Les minorités ont de l'importance et on leur donne de la place et on leur reconnaît un droit. Et moi qui suis un peu solitaire, je ne veux pas qu'on intervienne constamment dans ma vie. Je ne veux pas qu'on m'appelle sans arrêt. Je ne veux pas faire sonner quelque chose dans ma poche. Je ne veux pas avoir de chaîne. Donc, je fais partie d'une minorité, celle qui veut encore décider pour elle-même de ce que peut faire la technologie et de l'utilité qu'on en a. À la campagne, ma blonde est branchée sur l'Internet, on ne l'a pas encore haute vitesse, là, même si le gouvernement prétend qu'on devrait tous l'avoir, mais bon, on a ça. Moi, je ne m'en sers pas, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas quelque chose que je déteste, c'est quelque chose qui n'ajoute pas à ma vie, si on veut. Et puis aussi, sans dire que je me donne comme mission en onde de dire il faut que la minorité des noms Internet soit respectée, je comprends que beaucoup de gens, peut-être pas 25% de la population, mais peut-être 5 ou 10%, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas l'Internet, qui ne sont pas capables de s'en servir, qui sont aveugles, qui sont sourds, qui sont n'importe quoi, mais pour qui refuser l'invasion de la vérité Internet représente quelque chose de convenable et ça leur convient. Alors, je fais partie un peu d'une minorité, mais pas tellement, parce que quand on est en onde, hein, on est là-dessus. Mais remarque que depuis 2 ans, autant quand c'est arrivé dans mon salon, puis je trouvais ça merveilleux pendant 3 mois de faire mon émission dans le salon, autant après ça, j'ai été souvent déçu. Parce que ça rentre pas, parce que ça coupe, parce que l'image est floue. Et là, je me suis dit, mais non, c'était pas fait pour être super efficace. C'était fait pour le général, pas pour le particulier. Parce que quand on arrive à des trucs pointus, il faut aller vers des super systèmes, super techno, super techniciens. Et là, ça marche pour aller sur la Lune, par exemple. Mais dans le quotidien, c'est ben du trouble pour arriver à faire quelque chose qui marche.
Ben, parlons-en des 2 dernières années, parce que justement, tu as été, ben, tu le disais, tu t'es retrouvé à faire ton émission de radio chez toi, dans le salon.
C'était amusant d'ailleurs. C'était très amusant, hein, parce que j'étais ici, Laurent Boursier venait brancher les ordinateurs, brancher les écrans, et puis je regardais dehors, puis j'ai trouvé ça très amusant le premier mois. Le deuxième et le troisième, c'était pas trop pire parce qu'on savait que ça finissait là. Mais là, on s'est inquiété du mois de septembre et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et quand on a recommencé une émission de radio, c'est un peu comme un joueur de hockey, hein? Il sait qu'il doit être à droite, au milieu ou à gauche. Mais il faut que tu lui dises, t'es libre de faire ce que tu veux. Parce que si on veut que tu comptes des buts, il faut que tu puisses inventer. Il faut que tu puisses imaginer ton affaire. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans la contrainte. J'étais plutôt dans le chemin trop balisé. Et ça, ça m'empêchait d'être libre. Et les gens de ma génération, dans les années 60, 70, 80, ont vécu dans la liberté. C'est ça qui a été leur chemin. Ça a été de se dégager des parents, se dégager de la religion, se dégager de l'ordre, de la police. Vous savez que quand je suis encore d'une époque où on fermait un petit café parce que la police venait parce qu'on écoutait du Brassens. Là. Ça m'a peut-être marqué à cause de Brassens, c'est peut-être ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vivait en bousculant les clôtures. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec cet ordre technologique, j'ai l'impression qu'on me met des barrières à droite à gauche et je trouve ça difficile.
Alors voilà pour l'extrait de l'entrevue avec Joël Bigot qui sera disponible en ligne lundi sur moncarnet.com et sur toutes les bonnes plateformes qui vous permettent d'écouter le podcast que vous écoutez présentement. En 2022, l'entreprise numérique Turbulent célèbre ses 20 ans. Et quel parcours! Je les ai connus au tout début comme une boîte web de sites interactifs, avant que la mode arrive d'ailleurs. Ensuite, ça a été comme producteur d'expériences numériques en lien avec du contenu télévisuel. Et puis plus récemment, je les ai vus devenir un gros joueur dans l'industrie du jeu vidéo en parallèle avec leur activité régulière. Comment ils ont fait tout ça? Ben, mon invité devrait avoir quelques réponses à ce sujet. On va le rejoindre immédiatement. Marc Baudet est le cofondateur de Turbulent et aujourd'hui PDG d'entreprise. Bonjour Marc Baudet.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'accepter mon invitation et de revenir comme ça 20 ans en arrière. Je faisais des recherches et je me suis amusé à aller voir dans le temps. En 2002, Turbulent se présentait comme étant une firme de développement de solutions de communication interactive appuyée sur une infrastructure technologique à haut débit visant à être déployée sur Internet. Ça, c'est 2002. 10 ans plus tard, en 2012, c'était plus succinct. J'imagine que vous avez déjà beaucoup d'expérience. Vous avez dit « Turbulent crée, développe, produit et diffuse des projets web en multiplateforme ». En 2022, comment on pourrait décrire Turbulent?
En fait, c'est une question intéressante de voir que tu as fait ces recherches-là puis que tu es allé dans notre histoire parce que je dirais aujourd'hui, on est probablement dans notre 5e plan d'affaires. À l'origine, comme tu l'as bien vu, on faisait des sites web dynamiques on a eu une difficulté dans ce marché-là. On n'arrivait pas à percer. Fait qu'on a changé de plan d'affaires. Puis c'est un peu comme ça qu'on a assuré notre survie. Puis aujourd'hui, on est rendu dans notre 5e plan d'affaires. Alors, aujourd'hui, pour reprendre les mots de notre branding, on produit des résultats improbables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en détail? En fait, on opère des plateformes de monétisation de contenu pour nos clients qui sont soit dans le secteur de l'éducation, des médias ou du jeu vidéo. Alors, nous, les produits qu'on va développer, ça va être des sites web là, qui comprennent beaucoup de contenu et qui ont un shopping cart. Parce que, comme dit l'adage, tu es personne sur l'Internet jusqu'à temps que tu acceptes un paiement par carte de crédit.
J'étais curieux aussi à travers les âges, puis je suis content parce que vous le confirmez. Donc, il y a eu 5 approches différentes qui ont été prises. C'est quoi aujourd'hui l'ADN de Turbulent?
Ça reste une équipe, en fait, de personnes passionnées qui ont vraiment envie de changer les choses. Tu sais, il n'y a rien qui remplace le talent et la motivation. Puis je pense que c'est ça qu'on a gardé à travers les époques. C'est sûr que les marchés, les tendances, tout ça change. Quand j'ai commencé, le mobile ou l'iPad n'était pas présent. C'était beaucoup l'ordinateur qui était la clé de la visite. Et tu sais, aujourd'hui, 60% du trafic des sites Internet sont généralement sur mobile, selon les marchés. Là, mais il faut toujours inventer des nouvelles choses. Il faut toujours trouver des choses intéressantes. Il faut toujours réussir à être original par rapport à ce que les autres font. Puis, c'est une problématique que vivent tous nos clients dans le marché, en fait. Et on n'a pas un client ici qui n'a pas 10 compétiteurs, en fait. Fait que l'idée, c'est de garder des gens allumés, motivés, puis heureux pour inventer à chaque jour des nouvelles manières de faire.
Vous disiez un peu ce qu'a changé en 20 ans dans la technologie, mais qu'est-ce qu'a changé? Comment les clients ont changé en 20 ans?
Bien, je dirais que la clientèle a gagné beaucoup de maturité. Tu sais, quand j'ai commencé, en fait, l'Internet, c'était un gadget. Tu sais, puis là, moi, j'ai ouvert dans la crise des dot-com en 2002. Fait qu'il y en a qui disaient, bon, ben on vous l'avait dit que l'Internet, c'était une mode puis que ça allait passer. Tu sais. Puis d'ailleurs, ça nous fait encore mal, cette crise-là, parce que les gens ont arrêté d'aller à l'école pour apprendre les technologies dans cette période-là. Fait que ce qui fait qu'actuellement, on a une pénurie, c'est une des raisons de la pénurie de la main-d'œuvre actuelle, en fait. Mais quand j'ai commencé, c'était ça. Fait qu'il fallait avoir un site Internet parce que tout le monde en avait un, mais il n'y avait pas grand monde qui avait compris comment faire de l'argent avec l'Internet en 2002. Puis, les clients, des fois, dans les briefs, ils nous disaient, ben, on vous engage pour que vous nous fassiez faire de l'argent sur l'Internet. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile comme mandat parce que si on avait eu la pierre philosophale, finalement, on s'en serait servi pour nous autres. Alors qu'aujourd'hui, il y a une beaucoup plus grande maturité à la fois chez les agences comme Turbulent, puis chez les clients aussi. Il y a des choses qui marchent. Souvent, les gens ont déjà un modèle en fonction qu'il faut qu'il soit amélioré. C'est rare qu'on va voir quelqu'un qui part avec rien, là.
Mais ce qui a changé beaucoup aussi, puis je serais curieux de vous entendre là-dessus, quand on regarde les dernières 20 années, c'est qu'au début, quand vous avez commencé, vous le disiez, vous étiez dans le web, vous vouliez faire bouger le web, puis fin des années 2000, autour de 2009-2010, est arrivé et se sont installés pour rester les réseaux sociaux. Ça aussi, ça a changé le décor dans la communication en ligne.
Oui, ben en fait, ce qui a beaucoup changé entre 2002 puis 2010 et maintenant, c'est la vélocité. C'est-à-dire que, puis le contrôle. Tu sais, au début, c'était quand même un média, plus on poussait du contenu sur les gens. Puis, dans ce sens-là, c'était la domination du portail aussi, du concept du portail. C'est-à-dire que les gens essayaient de créer un endroit où on retrouverait de tout. Puis, c'était en général, tout était contrôlé. Même, je recevais des briefs où les gens voulaient créer un portail sur l'automobile, mais où même les évaluations des autos auraient été fournies par l'agence publicitaire. Tu sais. Il y avait cette idée-là qu'on réussirait à contrôler, puis que les gens seraient en fait des personnes passives face au contenu. Les médias sociaux ont complètement reviré ça de bord, puisque aujourd'hui, il n'y a plus personne qui contrôle rien. Puis, si tu décides de bloquer en fait les gens ou de filtrer sur ta plateforme de communication, ben finalement, le négatif va juste s'en aller ailleurs et tu vas en perdre le contrôle. Puis si même la plateforme qui décide de filtrer le négatif puis de l'envoyer ailleurs, il y a un start-up qui va inventer une nouvelle plateforme où ce négatif-là va s'en aller. Donc, le contrôle n'existe plus. Puis, en fait, l'idée, c'est que tu peux te servir de ces plateformes-là, finalement, pour te créer un média, en fait. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui sont devenues en soi des médias eux-mêmes sans posséder d'infrastructure. Donc, ça aussi, ça devient un autre paramètre d'exploitation. Puis, les grandes marques, maintenant, de toute façon, ont ajouté, en fait, à leur manière de communication, l'idée de faire appel à ces influenceurs-là pour mettre en valeur leurs produits. Donc, tu sais, l'écosystème est beaucoup moins pyramidal qu'avant.
Quand vous regardez derrière, là, il y a 20 ans, puis vous le disiez au début, ça a changé, vous avez adapté au marché, mais ça a été quoi le moment charnière pour Turbulent, pour devenir l'entreprise qu'elle est aujourd'hui?
Je dirais qu'il y a plusieurs moments, en fait. Tu sais, premièrement, la réalisation que notre premier plan d'affaires n'allait pas fonctionner. Tu sais, ça l'a amené, en fait, les propriétaires. Puis, tu sais, dans ça-là, sur le blanc, on était quatre. Fait que, tu sais, deux propriétaires puis deux employés. Fait que, tu sais, c'est moins difficile de virer dans ce temps-là. Fait qu'on a décidé de devenir un fournisseur technique pour les agences publicitaires. Fait qu'à place de compétitionner tout le monde comme on faisait, on a décidé de devenir le fournisseur de tout le monde. Puis ça a été très bon, mais ce modèle-là a arrêté avec la récession de 2008 où la création des sites expérientiels par les agences publicitaires a disparu avec la crise financière de 2008. Puis là, on avait déjà commencé à pivoter vers les médias. Fait que là, on est devenu un producteur web de contenu convergent. Puis ça, ben, En 2016, le CRTC a changé les règlements puis les projets qui pouvaient être soutenus en télévision et il nous a exclus. Fait que là, on a eu à revirer encore une fois. Puis là, on avait de la difficulté à se replacer. On avait différentes perches à l'eau. Mais c'est là qu'on a décidé de focusser beaucoup plus sur l'éducation et le jeu vidéo qui, avec la crise de la COVID, ont explosé. Fait que je pense, le moment charnière, c'est d'avoir compris rapidement que la diversification était en fait probablement la meilleure manière de survivre dans un environnement qui est dominé par le chaos, en fait.
Vous parlez de jeux vidéo, puis vous avez touché à beaucoup de projets, mais probablement que celui qui vient en tête des gens, c'est le gigantesque Star Citizen. Depuis novembre 2020, vous pilotez, vous produisez une partie du jeu vidéo. Comment ça se passe dans l'espace?
Ben écoutez, ça va très bien. On a à date notre meilleure année historique. Fait que tu sais, à chaque année, on bat un record, puis là, on est en train d'en battre un encore cette année. Fait que ça va très bien. Nous, on a commencé là-dedans, ça va faire 10 ans cette année qu'on travaille sur Star Citizen. Quand ils sont arrivés, ils étaient 2 employés, ils sont aujourd'hui au-dessus de 700. Fait que c'est vraiment une nouvelle manière de créer un jeu vidéo. C'est l'idée qu'on va le créer avec les fans qui vont y jouer. Ça, c'est l'aspect révolutionnaire de Star Citizen. Ça l'a amené énormément de complexité au niveau des opérations, parce que finalement, nos fans sont tenus au courant de tout ce qui se passe. Mais l'avantage, je pense, que le projet avait, c'est qu'il s'est créé avec sa campagne de sociofinancement. C'est pas une compagnie qui a décidé du jour au lendemain de passer dans un mode d'open development puis de s'adapter. C'est une compagnie qui a été créée par le open development. Pour Turbulent, ça a été une opportunité extraordinaire puisque on avait déjà fait des projets dans le jeu vidéo. On avait travaillé avec plusieurs studios là au Canada et aux États-Unis. Mais la relation qu'on a développée avec Cloud Imperium Games ici, et la confiance qu'ils nous ont accordée, ils nous ont offert finalement de créer une unité de jeux vidéo qui est la nouvelle division qui crée du contenu pour Star Citizen. Puis à date, ce contenu-là a été reçu extrêmement bien par la communauté parce que c'est là en fait qu'on est jugé. Tu sais, si la communauté avait dit ce que Montréal fait, c'est de la merde, ben là, ça aurait été plate pour nous autres. Surtout que c'était notre première tentative de diversification dans ce secteur-là. Puis on commençait en AAA et non pas dans d'autres jeux. Et là, quand on regarde ce que les influenceurs disent sur le travail du studio de Montréal, c'est tous extrêmement positif. Fait que non seulement on a réussi à recruter une équipe de 40 personnes, on a réussi à leur faire livrer des choses qui ont été très, très bien reçues par la communauté. Fait que je dirais ça, c'est probablement une de mes plus belles diversifications là, dans l'histoire de la compagnie.
Mais dans la diversification, vous avez quand même eu, puis vous l'avez mentionné au passage, un beau passage puis un beau moment à l'époque où vous créiez du contenu média. Là. Ça aussi, oui. Vous avez marqué beaucoup de points là-dessus.
Oui, ben ça, écoute, on a gagné des Gémeaux, on était considéré comme une des meilleures firmes au Canada dans ce domaine-là.
On vous voyait presque comme un producteur de télé.
Ah ben ouais, presque. Mais le presque est toujours resté. Mais non, j'ai beaucoup aimé le passage dans le média, puis honnêtement, j'y serais resté, mais tu sais, le média au Canada, c'est une industrie qui dépend des subventions. Fait que dès le moment, ça peut exister tant qu'il y a de la subvention. S'il n'y a plus de subvention, ben ça n'existe plus. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé, en fait. Mais ça a été un très, très beau un moment pour Turbulent, duquel il a sorti des projets extraordinaires comme Mixmania, Mission Antarctique, Qu'est-ce qu'on mange pour souper. On a connu beaucoup de succès, mais malheureusement, les modèles d'affaires en médias sont beaucoup plus difficiles. Puis bien, c'est un secteur qui est en crise aussi. Puis ce que je trouve dommage, c'est quand ils ont changé les politiques, c'est que moi, j'ai toujours pensé que le numérique viendrait aider les médias. Mais je pense que l'industrie ne voyait pas ça de la même manière.
Je vous ramène à beaucoup plus récemment. Les 2 dernières années qu'on a passées, évidemment, elles ont été difficiles pour tout le monde. Mais il y en a qui sont quand même mieux tirés d'affaires. Vous avez fait un clin d'œil, une allusion à la chose. Vous, la pandémie, là, ça, je ne dirais pas que ça a été bon pour vous, mais vous avez bien sorti votre épingle du jeu.
Ben nous, en fait, je pourrais dire au niveau de l'entreprise, on a triplé de taille. Fait que c'est mais ça a été quand même challengeant parce que tu sais, les premières semaines de la pandémie, quand il a fallu fermer le bureau de Montréal puis envoyer tous les gens chez eux, ça a créé beaucoup d'insécurité. Puis on n'était pas, ben, en fait, personne n'était préparé à ça. Fait qu'il a fallu apprendre sur le tas comment opérer à distance. Bon, l'avantage de notre secteur, c'était que ben c'était plus naturel pour nous de s'adapter rapidement avec les laptops, les connexions, etc., etc. Fait que quand je regarde ça, je me dis, bon, on n'a pas tant de mérite que ça, finalement, parce qu'on avait déjà tout ce que ça prenait pour le faire.
Mais quand même, Marc, vous auriez pu avoir le statu quo, vous auriez pu doubler, ce qui aurait déjà été extraordinaire, mais là, on parle de tripler. Qu'est-ce qui a fait que vous avez si bien performé?
En fait, les deux grands secteurs porteurs de la compagnie ont complètement explosé pendant la pandémie. C'est-à-dire le jeu vidéo et l'éducation. L'éducation a gagné 8 ans, certainement, peut-être 10 ans dans sa numérisation parce que soudainement, les classes étaient à distance, les gens devaient avoir accès à leur contenu, donc les plateformes numériques sont devenues clés. On a vu le trafic sur les plateformes éducatives doublé, même quadruplé. Donc, c'est comme si on prenait l'industrie de l'éducation en 2019, bien, rendue en 2029 au niveau de sa numérisation. Donc, elle s'est complètement transformée. Donc, nos clients, nécessairement, en éducation, veulent avoir accès veulent acheter plus de services, veulent accélérer leur virage numérique. Jeux vidéo, même chose. C'est des industries qui ont eu des croissances de revenus importantes parce qu'il y avait rien que ça à faire pendant la pandémie. Donc, et là, les méthodes de distribution en jeux vidéo avaient déjà commencé à changer avec, tu sais, des plateformes comme Steam et tout ça, mais là, les studios jeux veulent distribuer directement. Puis nous, ben, dans Star Citizen, je pense que la première année de la pandémie, notre client a eu, je pense, 20% de croissance de ses revenus, ce qui est quand même très important. Alors, tous ces clients-là veulent plus de services, veulent plus de produits. Certaines autres compagnies comme la Banque nationale étaient impressionnées de voir des compagnies comme Surblanc faire des produits aussi innovants, donc ils sont devenus clients chez nous. Donc, en fait, nous, on avait une émeute à l'entrée de compagnies qui voulaient des virages numériques ou des plateformes numériques. Tout le monde voulait se diversifier parce que là, les magasins étaient fermés, donc ça prenait des nouveaux produits, des nouvelles manières de parler à ses clients. Puis Turbulent était dans ce marché-là. Comme je disais à mes associés, c'est la première fois qu'on a une crise économique ou une crise qui nous avantage parce qu'en 2008, on avait dû faire des mises à pied.
Vous y avez fait référence un peu plus tôt, et je veux revenir sur la question parce que je lisais là récemment que vous allez passer de 150 à 200 employés. Comment on fait dans le contexte qu'on connaît actuel pour régler le problème de la pénurie? Comment vous l'abordez, la pénurie de main-d'œuvre?
Ben, écoutez, c'est sûr, il y a une certaine compétition entre les entreprises sur le marché local qui est pas nécessairement positive puisque ça augmente nos coûts de production, mais il y a aussi la possibilité de travailler avec des gens qui ne sont plus à Montréal. Tu sais, on a des employés maintenant dans plusieurs régions du Québec parce qu'on peut travailler à distance. C'est ça qu'on a appris avec la COVID. Maintenant, on a ouvert aussi une filiale à Lyon en France. Et on a des employés au Brésil. Donc, maintenant, on recrute. On essaie de se limiter au fuseau horaire là, de Los Angeles à l'Europe de l'Ouest. Mais maintenant, il y a aucun problème à recruter dans d'autres territoires pour avoir accès à des expertises, mais aussi contrôler nos coûts. Alors que pré-COVID, par exemple, il fallait que tu viennes travailler à notre bureau de Montréal. Fait que ça, c'est une manière de faire. Je pense qu'il est plus positif. Puis je pense que ça peut avoir une influence intéressante au niveau de notre impact économique au Québec en permettant d'avoir des jobs de qualité qui étaient limités aux grands centres maintenant dans les régions du Québec.
Mais vous qui avez toujours été un abonné de la rue Saint-Laurent dans vos bureaux, est-ce que ça veut dire que à l'horizon, justement pour vous adapter à cette nouvelle réalité, il pourrait par exemple y avoir un déménagement et avoir quelque chose de plus petit? Est-ce que ça va jusque-là, la nouvelle réflexion?
Ce qu'on s'est dit, par exemple, On a notre bureau en France. On a fait une entente avec une compagnie qui s'appelle Wojo, qui est un genre de WeWork. Mm-hmm. Puis, en fait, les employés peuvent se réserver des espaces de travail, en fait, dans les différents Wojo de France s'ils veulent, ou ils peuvent travailler de la maison. Donc, si, par exemple, on arrivait à Québec, on est rendu avec 3 employés, s'ils disent, ben, nous, on aimerait ça aussi avoir un endroit comme ça, ou quand on décide de rentrer, on peut y aller, ben, là, on va regarder pour avoir des bureaux, ce qu'on appelle comme ça, là, sur réservation. À Montréal, reste que, tu sais, on avait un bail, fait qu'on a encore notre bureau sur le boulevard Saint-Laurent, mais on regarde de plus en plus pour des structures plus flexibles de ce type-là.
Avez-vous l'impression que l'avenir ressemble à ça? Justement, et ça sera peut-être l'évolution de Turbulent d'avoir une entité qui offre toujours les mêmes services, mais qui est à quelque part l'entreprise là, dématérialisée.
Bien, écoutez, j'aimerais pouvoir répondre à votre question parce que c'est une question que je me pose souvent, puis j'ai une réponse différente à chaque semaine.
Alors, cette semaine, c'est laquelle?
Cette semaine, je pense, là, j'ai commencé à avoir des demandes d'employés qui veulent avoir un bureau fixe puis venir 5 jours semaine. Mais ça reste quand même assez limité. Mais la semaine dernière, par exemple, j'avais fait sortir les statistiques où sur, mettons, j'ai 120 employés dans la région de Montréal et j'ai jamais plus que 25 au bureau. Fait que je me disais, bon, OK, ça prend un bureau pour 5 employés. Mais peut-être, tu sais, le jeudi, c'est la journée, le mercredi, jeudi sont les journées les plus achalandées. Lundi, il n'y a pas un chat. Fait que... Ça me rappelle les bars quand on était jeune, il y avait du monde juste entre 11h puis à 3h du matin, le vendredi puis samedi, mais le propriétaire payait son loyer au mois. Mais on se retrouve un peu dans le même genre d'affaires, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, une semaine, je me disais, OK, c'est un bureau pour 5 personnes, mais là, j'ai de plus en plus de demandes pour de bureaux fixes. Fait que j'ai l'impression que ça revient à... Pourquoi Turbulent a survécu pendant 20 ans? Parce qu'elle était agile et était capable de changer. Puis je pense qu'aujourd'hui, si un entrepreneur doit créer une culture d'entreprise et une stratégie d'opération qui privilégie l'agilité. T'sais, les plans sur 5 ans ou les plans long terme, ça peut être très contraignant. Puis à un moment donné, bien, quand tu vois qu'il y a un pattern qui se produit, bien là, tu structures le pattern. Donc, par exemple, ici, je pourrais avoir un bureau fixe de 40 personnes, mais à Lyon, je suis chez Wojo parce que je ne sais jamais comment de gens vont rentrer au bureau. Puis au Brésil, bien, le monde travaille de la maison.
En terminant, Marc, je ne vous demanderai pas dans 10 ans ou dans 20 ans, mais les 5 prochaines années vont ressembler à quoi, d'après vous?
Bien, je pense que tu sais, il y a encore beaucoup de challenges dans le monde de l'éducation, puis dans le monde de la santé. Tu sais, je pense que l'industrie qui a eu le plus de difficultés durant la COVID, pour des raisons évidentes, c'est l'industrie de la santé, mais j'ai été très surpris de lire à quel point il était mal organisé au niveau des logiciels, puis de s'organiser. Fait que ça, c'est une industrie où il y a un grand, grand potentiel de développement. L'éducation, ben c'est déjà parti, mais on va s'en aller vers la personnalisation de l'éducation. Tu sais, là, on a toujours travaillé en éducation standardisée. Tout le monde a le même livre de français, puis idéalement, tout le monde avance à la même vitesse. Je pense que dans le domaine de l'éducation, on va aller vers la personnalisation. Puis dans le jeu vidéo, ben c'est... C'est une industrie qui est extrêmement intéressante à suivre parce que c'est vraiment un des modes de divertissement du futur, en fait. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens vont pouvoir créer leurs propres histoires à travers des univers ludiques. Puis je suis très, très content d'avoir positionné Turbulent avantageusement dans ce secteur-là pour pouvoir le vivre de l'intérieur, en fait. Fait que j'ai l'impression que, bon, il y a peut-être une récession qui s'en vient, c'est ce qu'on dit. Mais je pense que ces secteurs-là vont être peu touchés par cette récession-là, en fait.
Marc Baudet, PDG de Turbulent, félicitations pour les 20 ans derrière vous, puis bonne chance pour celles qui s'en viennent.
Merci beaucoup, et merci de m'avoir invité, puis félicitations pour votre belle émission. C'est très intéressant de vous suivre.
Thank you. Depuis le temps que je couvre le domaine du numérique, ça fait 27 ans là, déjà, j'en ai vu des entreprises offrir des services. Et de temps en temps, j'en découvre qui ont vraiment des solutions intéressantes à des problèmes ou des situations qui sont là depuis longtemps et pour lesquelles on n'a jamais vraiment pris le temps de voir comment on pourrait faire mieux. C'est le cas de mon prochain invité qui, lui, a décidé carrément de révolutionner la façon de faire des organismes de loisirs, des centres d'activités, des centres sportifs, enfin, vous comprenez le domaine. Et ça fonctionne bien, très bien même ailleurs que chez nous, parce que, comme le veut l'adage, hein, il semble encore une fois qu'on ne soit pas prophète en son pays. Alors, pour nous parler de cette solution de gestion de l'offre à la clientèle, je joins à l'instant le président et fondateur d'Amelia. Bonjour François Gaouette.
Bonjour M. Bruno.
J'ai essayé, quand je vous ai présenté, d'expliquer ce qu'est le produit phare de Amelia, mais j'aimerais ça que vous nous le présentiez dans vos mots. Vous êtes probablement le meilleur présentateur de votre produit.
Ouais, ben simplement, c'est l'idée derrière ça, c'est d'amener aux organisations communautaires les bénéfices du commerce électronique. Hein. On connaît tous Amazon, on est tous habitués de magasiner en ligne, d'avoir des choses livrées à notre porte. Et quand j'ai commencé l'entreprise, il y a 13 ans, pour moi, c'était évident qu'on s'en allait dans cette direction-là, que les interactions avec ta communauté devaient être très similaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est une plateforme qui prend un club de natation ou un loisir municipal, puis le transforme en commerçant sur le web, qui amène les mêmes bénéfices à l'utilisateur, c'est-à-dire un magasin, un panier d'achat, un processus de caisse, de sortie, mais c'est un monde extrêmement complexe qu'on a réussi à transformer. Et de maintenant de permettre aux gens d'interagir avec les organisations, trouver des cours, les acheter, les canceller, les payer, sans devoir se présenter à personne. Un peu ce que le monde du commerce de détail a vécu. Hein. Avant, on voulait s'acheter un gilet, on allait dans le magasin, puis on cherchait, puis on demandait aux gens s'il y en avait, puis ils regardaient dans le système d'information, puis ils disaient oui. Maintenant, il ne va plus en magasin, hein. On y va pour une expérience. Les gens, je pense pas qu'ils désirent aller à le YMCA savoir s'il y a de la place pour jouer au tennis demain. Ils veulent le voir en ligne, faire la transaction immédiatement. Fait qu'on a révolutionné ça. Je compare aussi un petit peu. Prenez Shopify. Shopify a rendu très, très accessible le commerce électronique aux petits marchands. Hein? Ben, nous, on fait la même affaire, mais c'est pas pour le petit marchand, c'est pour l'organisation communautaire qui vend des activités. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est augmenter la participation des gens dans leur communauté. Beaucoup de monde joue au tennis ce soir avec les amis qui pouvaient trouver un terrain puis le réserver. Mais on se décourage avant parce que c'est impossible.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour, j'allais dire, les organisations qui utilisent votre logiciel, c'est de comprendre comment ça peut venir les aider ou c'est de l'intégrer et d'apprendre aux gens qui travaillent dans l'organisation à l'utiliser?
Non, la plus grande problématique, c'est la résistance au changement. Hein? Encore une fois, les détaillants dans le commerce ordinaire ont pris beaucoup de temps à changer. Hein? Ils voulaient pas, ils se disaient non, mais moi j'ai un magasin sur le coin de la rue, ça va être correct. Non, ça va pas être correct. Les clients sont rendus ailleurs. C'est la même chose. Hein? Fait qu'on a c'est des gens extrêmement conservateurs dans mon marché. Historiquement, il n'y a pas eu de technologie de développer pour eux. Hein? Fait qu'on arrive et on lui dit ben non, là, vos instructions que vous faites de manière traditionnelle, oubliez ça, prenez Amelia, on va s'occuper de tout. C'est un peu effrayant pour ces gens-là qui, prenons l'école de danse qui fait ses inscriptions pendant 3 jours. Si ça marche pas, est fini l'école de danse, ça passera pas. La beauté, c'est que maintenant, on a plus de 1200 clients avec des études de cas qui démontrent l'impact majeur qu'on a. Hein? L'impact majeur est simple. Ces organisations-là vendent plus. Pourquoi? On rend ça accessible.
Ben, c'est ce que j'allais vous poser comme question parce que j'ai l'impression que comme c'est une offre à laquelle on répond 24 heures sur 24 quand le client le veut, contrairement à ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant sans intégrer ce type d'outil-là, il doit avoir un gros impact sur les ventes.
Ah, les ventes de nos organisations progressent de 30% dans la première année et par la suite, ça continue de 10 à 15%. Vous avez très bien ciblé le problème. Ces organisations-là ont rarement des cours qui sont vendus à 100%. Bon, il y a le cours du samedi matin où tout le monde court après pour la natation, là, mais souvent, c'est des actifs qui sont sous-utilisés. Ils peuvent avoir un cours de natation où il y a 6 personnes, puis il y a de la place pour 10. Pourquoi il n'y en a pas 4 de plus? C'est parce que c'est quasiment impossible à acheter. Nous, on rend ça extrêmement facile. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des cours, qui veulent faire des activités. Mais pensez à comment c'est difficile dans votre communauté, puis c'est C'est complètement ridicule. Et nous, on amène cette plateforme-là, qui est extrêmement difficile à bâtir. Je suis encore surpris qu'on a réussi. C'est la seule qui existe dans le marché. C'est extrêmement complexe. Une activité, ça a beaucoup de complexité, hein, que ce soit au niveau des règles d'affaires. Hein, c'est un cours pour les garçons de 12 ans, niveau 2 en natation, qui est membre, qui reste dans le quartier, extrêmement compliqué. L'activité, c'est un service. C'est pas physique. Donc, ça a un calendrier, une cédule complexe. Ça a des ressources. Hein, un cours de natation, pas de piscine, puis pas de prof, ça donne pas un cours fort. Vous voyez comme la dynamique, ça capture beaucoup d'informations. C'est très, on appelle ça, nous, c'est une transaction, il y a beaucoup de formulaires, beaucoup de relations avec l'affiliation. Ensuite de ça, beaucoup d'informations basées sur le participant, comme je le mentionnais. Donc, il faut avoir l'information sur le participant. Puis finalement, bien, on vous envoie pas par la poste votre cours de natation. Vous venez à la piscine. On doit gérer votre présence, vous donner accès à la piscine en temps et lieu. Qu'est-ce qui arrive si vous arrive un accident à la piscine? Qui a le droit de venir me chercher? C'est extrêmement complexe. On a réussi à le faire. Et là, on rentre dans la phase de commercialisation où on pense que ça va de soi que les gens vont. En tout cas, on sait que les utilisateurs adorent Amelia. Les administrateurs adorent Amelia. Il faut maintenant propager la bonne nouvelle.
Jusqu'à maintenant, on a parlé de, évidemment, la partie la plus visible du service qui va intéresser les gens, donc la possibilité de vendre en ligne et pour le client d'acheter en ligne. Mais à avoir autant de données et à une utilisation qui va se perpétuer à travers les années, pour le gestionnaire, pour le planificateur, là, ça commence à être intéressant parce que lui, il va avoir de la donnée là, pour planifier ses années à venir et voir le comportement du consommateur.
Vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement une des forces de la plateforme. Hein, probablement, Amelia, on est probablement on est de loin celui qui a le plus d'informations sur ce qui se passe à Montréal. La ville de Montréal n'a pas idée de ce que ces gens font, parce que c'est nous qui avons le donné sur la participation dans les différents organismes. Fait que oui, pour un gestionnaire, de savoir que le cours de natation 8 ans, personne ne veut le faire. On va arrêter de le faire, puis il y a des cours de différents. Il y a des périodes où ça se vend moins bien. On est tous en train, effectivement, de commencer à amener de l'intelligence d'affaires à cette organisation-là. Hein, c'est des gens d'affaires, là. C'est juste que le service est différent, c'est un service à la communauté. Mais ils ont les mêmes besoins, mais tout à fait. On a maintenant des listes d'attente en temps réel, extrêmement intelligentes. On a aussi des listes de souhaits, hein. Les gens peuvent dire, hey, moi, ce cours-là, j'aimerais ça le faire la prochaine fois. Ben, ça te fait de la prévente, ça te fait. Donc, on s'en va. Et ce que je dis aux gens, c'est que moi, j'ai pas inventé la prochaine molécule qui garantit le cancer. J'ai regardé ce que le marché fait. Le marché, ben, regarde Amazon. Regardez ce que sont les gens. Il y a 450 millions de consommateurs en ligne. Ben, nous, on a arrimé ça. La complexité, c'est de faire la plateforme, d'y croire assez parce que les premiers clients que j'ai eus, il me disait, ben, j'en veux pas de magasin, moi. Je suis un club de natation. Là, je disais, non, mais c'est parce que vous comprenez pas, vous êtes un marchand. Hein, vous avez de quoi à vendre. Puis là, l'utilisateur, il s'en va en ligne, ça va vous prendre un magasin. Maintenant, mes clients, ils n'auront pas le magasin, là, ils vont pas être contents. Parce qu'une fois que tu es dans le magasin, ben, on est capable de faire aussi un peu d'intelligence, puis de vous dire, ben, OK, ce cours-là est intéressant aussi pour toi. Alors, vous inscrivez votre enfant au camp, ben, achetez donc son t-shirt en même temps. On fait ce qu'Amazon fait, puis ça crée beaucoup plus de valeur. Et pour le parent aussi, où on s'en va avec ça, c'est, tu sais, je me fais rire parce que j'ai parlé dernièrement avec un parent qui me disait, mais là, moi, j'ai inscrit mon enfant à un camp, il faut que j'aille acheter ces 14 affaires-là à quelque part que je sais pas où. Ben c'est là où ça s'en va. Là. Tantôt, on va vous offrir tout en même temps. En tant que parent, c'est extraordinaire. C'est des transactions de commerce électronique. Ouais. Et adapté au monde communautaire.
Et le pire là-dedans, ben le pire, tant mieux, c'est que l'organisation qui demanderait une liste d'objets, si elle fait les hyperliens vers un commerçant qui collabore, il pourra obtenir un pourcentage de la vente. Alors, tout est dans tout, hein, c'est ça.
C'est exactement où ça s'en va. Ce ne sera pas des hyperliens, vous allez avoir les biens dans le panier. L'organisation va faire une commission. Le marchand va être extrêmement content. Le marchand, la plus grande difficulté du marchand aujourd'hui, c'est de payer pour avoir accès au client. Moi, j'ai, prenons Monsieur Bruno, vous faites une transaction pour un camp, puis vous avez le choix d'acheter tout ce que ça prend en même temps, puis donner 50$ au club, ou d'aller par vous-même aller le chercher. En plus, je peux vous dire, voulez-vous que je le livre au camp ou je le livre chez vous? C'est sûr que ça s'en va là, là. Puis la technologie est là, on est capable de le faire. C'est notre marché à nous qui est beaucoup, beaucoup en retard, mais pensez-vous vraiment que dans 5 à 10 ans, votre club de natation va devoir encore de se demander de vous présenter chez au comptoir? Non, c'est la même chose. C'est juste qu'on est 10 ans en retard, mais c'est ce qu'on a bâti.
Vous disiez ne pas avoir de concurrents. Est-ce que c'est le cas à la grandeur de la planète?
C'est le cas, en tout cas, Canada, États-Unis. Grandeur de la planète, on ne s'est pas présenté beaucoup. Ceci étant dit, on a un client qui franchise à la grandeur de la planète et on s'est commis à le suivre parce qu'il n'y a rien trouvé sur la planète. C'est un marché qui est oublié, hein. Si je vous dis demain matin, moi je vais faire une plateforme pour les clubs de natation, puis les clubs de soccer, puis l'école des arts, vous allez me regarder, vous allez dire ouais, ils n'ont pas de moyens. Pourquoi tu ferais ça? Ben avant l'arrivée de l'Internet, c'est vrai, mais à partir du moment qu'on peut faire une agrégation puis offrir une plateforme générique, puis la rendre transactionnelle, parce que oui, l'école de danse, ils ont peu de moyens, mais ils passent beaucoup de paiements là-dedans. Ouais. Donc, il y a comme personne qui s'est intéressé à ça. On l'a fait. J'ai eu une idée, j'étais un peu fou en disant non, mais moi, je pense que ça va être des marchands. Puis là, aujourd'hui, on commence à récolter un peu le fruit de ce qu'on a fait. Je pense pas que j'ai pas encore rencontré personne qui m'a dit qu'il avait eu une expérience extraordinaire avec ce genre d'organisation-là, hein, pour s'abonner à quelque chose ou les personnes qui m'ont dit, hey, va voir telle place, c'est extraordinaire, c'est tout le même constat. Donc, notre compétition, c'est le changement. C'est de prendre ces transactions-là où on a une personne qui est habituée que vous l'appelez, hein. Puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui appelle. Vous n'avez plus besoin de l'appeler pour vous révéler l'impôt parce que l'utilisateur d'Amelia est aussi un client d'Amelia. Vous avez une application, vous avez vos calendriers, vous avez vos reçus, vous avez vos paiements. Vous avez même un portefeuille où vous laissez vos cartes de crédit dedans. Vous avez des paiements préautorisés. Vous avez plein de choses en tant qu'utilisateur. Puis là, vous choisissez de partager ces informations-là avec les différentes organisations qui ont du Amelia. Fait qu'inévitablement, où est-ce qu'on va aller? On va aller vers de l'agrégation où on va vous permettre on va faire le Airbnb un peu de l'activité. Hein? Puis on va vous dire, je vous dis encore M. Bruno, là, parce que je prends encore ça du nom, comment vous le prononcez, mais vous êtes un amateur d'échecs. Disons ça, vous tripez sur les échecs. Mais moi, si je vous dis, M. Bruno, ça vous intéresse-tu que je vous tienne au courant pour tout ce qui se passe au niveau des échecs à Montréal? Vous allez probablement me dire oui. Mais moi, en temps réel, je sais quand il y a un cours d'échec à telle place, quand il y a peut-être un événement d'échec extraordinaire, parce que j'ai l'information, puis moi, je vais la divulguer. Moi, j'adore, moi, je suis un fan de golf, mais parlez-moi pas de la pêche, je hisse en pêche. Fait qu'on va être capable de contextualiser beaucoup. Ce qui est la force de l'AMIA, c'est que ça se passe au niveau local. Ça, c'est très important de comprendre. Puis c'est pour ça qu'on a des taux de transactions extrêmement élevés. Quand vous magasinez une télévision, vous allez chez Best Buy, vous allez sur Amazon, vous en mettez dans votre panier, mais vous cherchez un prix, hein, vous cherchez ce que vous voulez à un prix, vous n'êtes pas si pressé que ça, fait que c'est pour ça que les gens ne convertissent pas tant que ça le panier d'achat. Demain, vous voulez jouer encore une fois, je dis ça avec un ami au tennis, vous trouvez un terrain de tennis au coin de la rue, vous n'allez pas dire je vais aller shopper around. La motivation de faire une transaction, la motivation d'inscrire son gars au camp, la motivation de participer, toi, à une activité qui t'intéresse, fait en sorte que la transaction, elle est très, très, pas intense, mais sticky. Hein? On va pas faire, je vais aller voir dans 2 semaines, hein? Tu pourras plus jouer au tennis dans 2 semaines, peut-être. Fait que c'est l'aspect local qui est très, très fort dans l'année. Puis ça, c'est très rare sur le web, hein, que, tu sais, je parlais de Shopify, les marchands de Shopify, ils sont dans les airs. C'est pas concret. Mais club de soccer, c'est concret. Là. C'est au coin de la rue. Là. C'est là que tu vas aller jouer au soccer. Tu vas pas aller jouer au soccer à Winnipeg. Là.
Vous parlez beaucoup des clubs, des organisations. Mais j'ai l'impression que votre type de service, de plus en plus, pourrait être intéressé, puis maintenant qu'on vous connaît là, de plus en plus, pourrait intéresser les municipalités qui, eux, ont des services de loisirs qui pourraient bénéficier de tout ça.
Mais là, M. Bruno, on en a déjà. On connaît beaucoup de succès aux États-Unis, dans les villes. On a des succès phénoménaux. Dans les villes, vous avez tout à fait raison. Au Québec, pour une raison difficile à comprendre, c'est moins facile. L'adoption de l'innovation au Québec est pas facile. On a beaucoup de contraintes. Hein? Il y a des gens à la ville de Montréal, dans les arrondissements, qui voudraient du Amelia. C'est pris dans la structure. Un jour, ça va arriver. De plus en plus, ça bouge. Le Québec est un endroit aussi un petit peu plus conservateur sur l'adoption de la technologie. Mais oui, oui, absolument. On en a des succès de la ville de Jonquière, pas Jonquière, de Joliette utilise le million. On a fait un succès phénoménal. On en a de plus en plus. C'est un client qu'on vise de plus en plus parce que c'est le point de départ de la communauté. Hein? Parce que les gens, le loisir municipal, c'est eux qui ont les infrastructures. Oui. Puis c'est eux qui les partagent avec les clubs. Puis qu'il y a une interaction à travers ça. Puis nous, la beauté de ce qu'on est capable de faire, c'est même au niveau des infrastructures, on est capable de les partager dans notre logiciel. Ça a été toujours pensé en termes de communauté. Quand je vous donne un exemple, la ville de Montréal va louer des terrains de soccer au club de soccer tant d'heures, tant de pour un certain calendrier. Le club de soccer, pour une raison X, disons un dimanche, décide de plus utiliser les terrains de soccer, ben ils sont perdus. La ville ne saura pas qu'ils n'utilisent pas. Ce n'est pas des calendriers qui sont partagés. Ben nous, en temps réel, on est capable de partager ce qui se passe dans la communauté. Fait qu'imaginez la valeur que ça a. Puis pour une ville, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la journée que tu commences à connecter les différents organismes, tu connectes beaucoup de data sur ton utilisateur. Tu es capable de savoir où il en manque une piscine. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas non plus. Hein? Ça va avec le politicien qui dit on va faire une piscine. Ouais, mais parce qu'à 20 minutes, elle n'est pas pleine. Envoie ton monde là avant. Fait que ça, tu as une notion de connecter les choses. Hein. Un peu comme on est de plus en plus habitué dans le monde plus normal. On s'attend, nous autres, que quand on va sur le web, on prend un billet d'avion, puis on peut se trouver un hôtel, puis on peut tout faire ça en même temps. Là. Imaginez comme si c'était comme ça dans la ville. Ça serait extraordinaire pour vous.
Il faut travailler des gens. En terminant, vous l'avez mentionné tout au long de l'entrevue, c'est beaucoup de données que vous gérez, auxquelles vous avez accès. Évidemment, ça nous vient en tête hein, avec toutes les histoires de sécurité et de protection de la vie privée. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer de tenir ça?
On a une équipe dédiée à ça. On est PC1 Level Compliance, comme un niveau de sécurité extrêmement élevé. On a peu d'informations dangereuses, okay, dans le sens où on ne tient pas le numéro de carte de crédit sur nous. C'est ce qu'on appelle des jetons. Donc, l'autre information qui pourrait être très, très délicate concerne les numéros d'assurance sociale. On en a peu, on les sécurise énormément. Bien entendu, on a beaucoup d'enfants, hein, et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc, on travaille très fort à la sécurité de notre plateforme. Ceci étant dit, vous savez, je peux pas vous compter d'histoire. Si Amazon peut se faire hacker, je vois pas comment Emilia y arriverait pas, mais c'est au cœur de notre préoccupation. Le data, la sécurité de celui-ci, particulièrement quand on fait affaire avec des enfants. Je suis un père de famille, les miens sont rendus plus vieux, mais pour moi, j'aurais pas aimé que l'information sur mes enfants circule. Fait qu'on a une équipe dédiée à ça. C'est très, très important pour nous.
En tout cas, si je me réfère à un extrait du communiqué de presse qui a été émis la semaine dernière, 30 emplois en 30 jours avec 30 millions de dollars, je pense que vos 30 prochaines journées sont occupées.
Oui, on est très occupés. Encore une fois, ce que je dis aux gens, c'est une compagnie comme Emilia, là, c'est juste des humains. Hein? C'est des humains puis des ordinateurs. Fait que, le 30 millions va être investi à créer des emplois, à amener du talent dans la compagnie. Je suis particulièrement fier de ce soir d'avoir fait ça à partir de Montréal. Hein, quand on vend dans Californie des villes à partir de Montréal, une certaine fierté. Il y a beaucoup de talent ici. Souvent, on a pris pour acquis que dans la technologie, il fallait aller chercher des Américains. C'est faux. Fait que moi, je m'en fais un devoir. Puis ce stunt-là en disant, hey, venez chez nous, on a besoin de vos ressources. Mon objectif, c'est de créer une compagnie de classe mondiale qui va un jour avoir la ville de Chicago. Puis avant ça, je l'espère, Montréal, Québec, Sherbrooke, Longueuil, Laval. On va y arriver tranquillement parce que, comme je dis aux Améliennes, qui on se définit comme des Améliennes, ça se peut quasiment pas que ça marche pas parce que le client, il veut. Je veux dire, il vante en notre direction. On a un petit bateau avec une petite voile, mais là, la réalité, c'est que il faudrait vraiment être mauvais pour que la ville de Montréal n'achète pas des millions un jour, là, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, la demande est là, je veux dire, c'est juste attendre d'y arriver. Puis là, c'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'on a des ressources pour investir dans sa commercialisation. Et ça a été fait beaucoup avec du bouche à oreille. On a eu 14 millions sur 12 ans pour partir la plateforme. ça semble beaucoup, mais dans le monde technologique, c'est rien. Donc c'est là où on en est. Très excité pour le futur, très content pour les Amériens qui sont là, qui partagent cette vision-là. C'est des gens, c'est le fun aussi parce qu'on fait un produit qui aide la communauté. On se reconnaît là-dedans. Tout le monde a une expérience, que ce soit qu'une chambre de commerce, avec une école, des trucs parascolaires, des camps. Tout le monde a une expérience, puis tout le monde fait comme, mais comment ça qu'on peut pas faire mieux? Mais maintenant, on peut.
Alors, vous avez un bel outil et je vous souhaite le vent dans les voiles pour reprendre votre image. François Gaouette, président et fondateur d'Amelia, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Ça m'a fait plaisir. Toujours disposé à d'autres discussions intéressantes.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Maintenant, au tour de mon collègue Stéphane Ricoul qui profite de ce long week-end de Grand Prix de Formule 1 pour parler de transformation du modèle d'affaires et des enjeux d'investissement responsable ou durable.
Le week-end du Grand Prix de Formule 1, un véritable rendez-vous à Montréal, mais aussi un véritable rendez-vous pour la planète. Et il y a un double sens ici. Rendez-vous pour la planète pour les passionnés de F1 de partout dans le monde, qui ont l'occasion de vivre leur passion dans notre belle ville avec les retombées économiques que cela génère, mais aussi rendez-vous pour la planète pour ceux et celles qui ont à cœur la sauvegarde de celle-ci et qui voient dans cette débauche de transport de particuliers et de marchandises un désastre écologique pour quelque chose de vain à leurs yeux. Face à ce dernier point, on ne peut pas leur donner tort. Si d'un côté, on demande aux entreprises un effort collectif dans des actions à court terme afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et d'un autre côté, on organise des événements sportifs ou autres, je suis pas là pour faire le procès de la F1, il y a là un signal difficilement interprétable qui est lancé et qui surtout ne colle absolument pas à ce qu'énonce le dernier rapport de la GIEC, comme quoi avec un réchauffement mondial de plus 1,5 degré, il y aura des conséquences inéluctables. Preuve en est des nombreux phénomènes météorologiques qui font déjà des ravages dans plusieurs régions du monde. Que nenni semble y répondre le grand cirque de la Formule 1. Alors, regardons cela de plus près. L'expression « cirque de la Formule 1 » est communément utilisée pour décrire de façon simple toute la complexité de la chaîne de valeur de la F1 avec ses nombreux acteurs. Et si de façon très positive, 44% des entreprises s'engagent à faire de nombreux efforts d'ici 2025 pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, selon une étude de McKinsey, beaucoup d'entre elles négligent tout de même les émissions de type Scope 3, c'est-à-dire celles qui sont reliées aux activités d'une entreprise, oui, mais qui ne sont pas directement sous son contrôle. Exemple, chaîne d'approvisionnement. Et qui représenterait jusqu'à 50% des émissions totales d'une entreprise. Et le cirque de la Formule 1 rentre exactement dans ce groupe-ci. J'en ai déjà parlé, mais à travers les 8 plus grandes chaînes d'approvisionnement qui représentent plus de 50% des émissions de CO2 mondiales, on retrouve l'automobile et le transport de marchandises. Il apparaît donc important de porter une attention particulière à ces dernières et de tenter de revisiter le modèle d'affaires de la F1 afin de minimiser ses impacts sur la génération de GES. Je vais volontairement mettre de côté l'aspect automobile, même si l'on parle ici de F1, car la part de CO2 de ces bolides de course est négligeable et j'y reviendrai dans pas long. Je préfère m'attarder plus à l'industrie du transport, qui représente actuellement 25% des émissions mondiales de CO2. Et en ce week-end de Grand Prix, je vous propose une brève analyse afin de mieux comprendre le parcours transformationnel et les modèles d'affaires d'une organisation comme Formula One ayant une empreinte carbone importante. Un véritable chemin de croix vers la carboneutralité à première vue pour cette importante machine si un plan transformationnel n'est pas correctement mis en place dès le départ, mais un chemin de croix dans lequel d'autres organisations pourraient éventuellement se reconnaître. Donc je commence par l'empreinte carbone de la F1. En 2019, la F1 avait une empreinte carbone qui s'élevait à plus de 250 000 tonnes de CO2. Aujourd'hui, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la F1 se donne comme objectif d'être carboneutre d'ici 2030. et cela passe pas forcément par les voitures de course, quoique pour l'image du sport, beaucoup d'efforts y sont faits via la R&D au niveau des carburants, l'efficience aérodynamique et l'hybridation des moteurs. Ce plan passe surtout par l'empreinte carbone liée au déplacement et à la logistique, car il représente, tenez-vous bien, 72% des émissions de CO2. À titre de comparaison, les émissions de CO2 reliées au moteur des voitures représentent moins de 1%. Et le propriétaire de la Formule 1, Liberty Media, croit fortement que sa recherche et développement dans ce domaine peuvent grandement bénéficier à l'ensemble du secteur des transports et de la logistique. Une bonne nouvelle en soi, car si les émissions de type Scope 3 que j'ai évoquées tantôt représentent une grande part des émissions totales des entreprises, elles sont malgré tout les moins bien mesurées dans les feuilles de route des projets et changements potentiels. Et pourtant, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Néanmoins, la F1 a identifié certaines mesures à mettre en place au cours des prochaines années, comme par exemple les matériaux durables, les déchets recyclés, la meilleure intégration des circuits à la nature, la voiture à zéro émission de carbone, la logistique et déplacement optimisés et très réduits, les bureaux et les usines à énergie renouvelable, etc. À présent, regardons quels sont les changements durables pour un impact positif. Identifier les pistes d'amélioration et de changement pour une transformation efficace a autant d'importance que leur planification et exécution. Pourquoi ? Parce que 70% des échecs d'implantation d'une solution sont reliés aux facteurs humains. Et pour la Formule 1, on s'entend pour dire que ces entreprises sont des mastodontes avec une grande quantité d'acteurs impliqués qui peuvent très bien être réticents au changement si ce dernier n'est pas adéquatement planifié et exécuté. À titre d'exemple, la Formule 1 désire implanter au cours des prochaines années des énergies renouvelables au sein de leurs bureaux et usines. Il s'agit d'un changement pouvant potentiellement impacter plusieurs parties prenantes, d'où l'importance de bien planifier et communiquer le changement. Autre changement à venir, celui des modèles d'affaires, un défi super important pour la F1 qui se doit de faire une transition durable tout en conservant le côté spectacle à grand déploiement et donc une grande valeur commerciale en attirant des commanditaires et investisseurs mais qui, eux, puissent y retrouver leur compte en termes d'image de marque, élément désormais primordial dans toute stratégie de croissance. Dans le cas de la F1, à la fois pour pallier les effets néfastes attribuables à l'ensemble des activités et créer de la valeur, il devient donc important de repenser son modèle d'affaires dans un environnement en continuelle évolution. Un modèle de gouvernance qui lui permettra de mettre de l'avant le réalignement de l'entreprise pour s'adapter aux changements externes et considérer les facteurs environnementaux et sociaux pouvant être directement ou indirectement reliés à l'organisation de son calendrier des Grands Prix à travers le monde, tout en s'assurant de prendre en compte la vision de chacun des acteurs impliqués et ainsi rester pérenne malgré les nombreuses critiques. Note importante que je veux faire ici, je viens d'évoquer les aspects sociaux, car ils sont partie intégrante des critères ESG. Mais je suis parfaitement conscient que la Formule 1 a aussi de très, très, très grands progrès à faire sur ce volet et qu'aujourd'hui son comportement est tout à fait inadmissible. Je m'inscris donc intégralement dans les propos de Martine Bécoté parus dans la presse plus du 4 juin dans un texte d'opinion appelé « Encore trop de Noémie » que je vous invite à lire. Aujourd'hui, le succès d'une entreprise n'est désormais plus attribuable qu'à ses résultats financiers ou ses considérations environnementales, mais il est attribuable à l'intégration de l'ensemble de ses principes à sa stratégie. Les transitions écologiques et durables des modèles d'affaires vont être de plus en plus fréquentes. La Formule 1 n'y échappe pas, au contraire, elle représente un exemple d'organisation ayant un impact carbone considérable et qui nécessite une adaptation aux enjeux environnementaux. Que Liberty Media se le tienne pour dit et qu'avec ses moyens financiers astronomiques qu'elle a, qu'elle nous montre l'exemple et le chemin à suivre vers cette étoile du Nord.
C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX, mais conception en général. Et bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno. Ben, oui, effectivement, on parle dans l'entrevue que j'ai faite cette semaine avec Alizé Rau et Damien Legendre qui sont à Rennes, dans le nord de la France, et qui sont qui font partie de l'agence LunaWeb, qui est un beau nom. Et ils vont faire un atelier, c'est ce qui m'a attiré parce que je suis allé voir la prochaine conférence Paris Web en octobre, où j'aimerais bien aller parce que c'est une belle conférence.
C'est une invitation que tu lances, hein?
C'est une invitation que je me lance à moi-même pour y aller. Donc, c'est le 8 octobre, en fait, c'est loin dans le futur, donc on peut toujours y penser encore. Mais ils vont donner une conférence sur l'éco-conception. Donc, le sujet, ou en fait, c'est un atelier où ils vont inviter les gens à venir concevoir avec eux des sites qui sont plus écologiques. Parce que c'est quelque chose qui est sorti un peu, ça, dans l'actualité dernièrement. Le coût, en fait, que représente la bande passante utilisée par des sites, par des applications, par des jeux, par plein de choses en ce moment.
Et ça, c'est une contrainte qu'on n'a plus, hein. À une certaine époque où la bande passante était rarissime, on se fendait le popotin pour faire des fichiers qui étaient très légers.
Oui.
Ça prenait de la magie de temps en temps. Mais là, aujourd'hui, quand tu parles à des concepteurs, le poids n'est plus un problème.
Non, effectivement. En fait, effectivement, je pense que les concepteurs le conçoivent pas. On se donne plus les restrictions qu'on se donnait. Probablement qu'il y a encore des limitations qu'on se donne un petit peu. On va pas faire des fichiers stratosphériquement gros au niveau du poids. Mais effectivement, toi et moi, on se rappelle dans les débuts des années 2000, on faisait des JPEG, puis on les mettait à 30-40% de qualité pour s'assurer qu'ils soient bien visibles rapidement dans le 12 baud ou autre modem que les gens pouvaient avoir à la maison. Ce qui est plus vraiment un problème maintenant. Alors qu'on regarde des vidéos en 4K. Mais quelque part, dans l'absolu, je pense qu'il faut peut-être effectivement recommencer à penser à ça d'une façon de concevoir un peu plus économiquement. Et c'est de ça que mes invités nous parlent cette semaine. C'est l'effort dans lequel ils se sont engagés et pour lequel il y a des clients qui viennent les voir maintenant spécifiquement pour dire « on voudrait être conçu de façon un peu plus écologique, vous concevoir notre initiative numérique de façon plus écologique, oui. »
Oui, non, mais c'est intéressant cette approche de l'Internet vert.
Il faut y penser, et une des questions que je leur posais aussi, c'est est-ce que on ne doit pas, en tant que intermédiaire de conception, faire penser aussi à nos utilisateurs que tout ce qu'ils font dans les médias sociaux compte également. Si on fait un site qui est éco-responsable et qu'on est tous les jours, on met 200 vidéos sur TikTok, est-ce qu'on n'a pas aussi une espèce de responsabilité sociale? Ou une responsabilité écologique. Donc, je pense que oui, c'est des questions qu'on doit se poser en général.
Et dis donc, je reviens à ta conférence, là. Elle est dans 4 mois?
Oui.
Écoute, je pense que si tu veux faire renouveler ton passeport demain ou après-demain, ça sera le temps de te mettre en ligne.
Mon passeport était encore bon jusqu'en 2023, mais effectivement, je vais effectivement être diligent et aller me mettre en ligne tout de suite.
Ouais. Hey, Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Je trouve ça intéressant comme sujet parce que ça va justement faire réfléchir au poids de ce qu'on envoie, mais aussi à la responsabilité qu'on a aussi dans le monde du numérique quand on fait de la création, de faire attention à cette approche-là. Jean-François, merci. J'aurai le temps de te souhaiter bon voyage pour aller à ta conférence, c'est dans 4 mois.
On se revoit d'ici là.
Entre-temps, ben, je te dis à la semaine prochaine.
Merci Bruno, à la semaine prochaine.
Eh bien, donc l'agence LunaWeb, on est une agence web assez classique à la base, qui a été fondée en 2004 par Nicolas Lecam, qui est toujours d'ailleurs le directeur de l'entreprise. Et depuis une dizaine d'années maintenant, on est expert, même si j'ai toujours un peu de mal avec ce sujet. Hein, les Français, on est toujours un peu du mal avec les sujets d'experts, mais on est expert en expérience utilisateur. Et depuis plusieurs années, on est monté en compétence sur d'autres sujets qui sont devenus aussi des expertises ou des presque expertises comme l'accessibilité et donc beaucoup plus récemment depuis quelques années l'éco-conception web parce que en gros ce sont des valeurs qu'on partageait nous ici à l'agence, des valeurs liées à l'écologie, et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait appliquer ça dans notre travail au quotidien, le web, et on s'est dirigé vers l'éco-conception web qui était une notion qui a commencé à monter là il y a quelques années. Donc du coup on a pris ce sujet à bras le corps.
Inévitablement, mais comment, par quel bout prendre cette bête? Vous avez parlé d'accessibilité. Bon, déjà, ça, on sait, il y a des règles. On peut les appliquer. On sait comment les appliquer. C'est pas tout le monde qui les applique, on s'entend. C'est encore quelque chose qui demande un effort à beaucoup d'entreprises, d'organisations pour dire, on va le faire comme le UX dès le début. On va planifier. Mais l'éco-conception, par quel bout on prend ça? Comment on commence? Moi-même, je suis très sensibilisé à l'environnement, mais quand je regarde ça, je me dis... Et moi qui ai commencé dans les débuts du web, qui disait à tout le monde, ben c'est bien le web, justement, on évite de couper des arbres pour faire des publications. Allons sur le web, ça va coûter moins cher à l'environnement. Et maintenant, on se fait dire, ben non, c'est pas si simple. Il y a des serveurs, il y a tout ça. Comment on fait pour sensibiliser? Par où on commence?
Déjà, je pense que tu as dit le terme, c'est sensibiliser. Donc, en fait, il faut commencer par ça. Le but de l'éco-conception, c'est de faire en sorte que le site soit le plus léger possible. Donc, en fait, le but, ça va être d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel en termes de fonctionnalité. Donc, la base, elle est là. C'est quand il y a quelqu'un qui souhaite refondre un site, recommencer un site de zéro, on va se poser déjà des questions. C'est déjà, est-ce qu'il a besoin réellement de ce site-là? Pourquoi il en a besoin, et puis essayer d'écrémer pas mal de fonctionnalités qui ne seraient pas utiles aux utilisateurs. Donc il y a évidemment de la recherche utilisateur à faire pour bien cerner le sujet, pour bien comprendre les enjeux et les besoins de ces usagers-là. Et puis après, il y a beaucoup de pédagogie à mettre en place. Parce qu'un client, demain, peut venir nous voir en disant « on veut un site éco-conçu ». Mais c'est un peu comme l'accessibilité, c'est « on veut un site éco-conçu, on veut un site accessible », mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des choix à faire et qu'il faut prioriser et qu'il y a donc des choses qu'on doit mettre de côté. Et ça, c'est difficile d'entendre ça. Et un site éco-conçu, on va dire que déjà, par exemple, on peut éliminer pas mal de choses comme le trop plein d'images ou les vidéos trop longues. On ne s'interdit rien, mais on minimise. Et les clients qui ne sont pas prêts à aller là-dessus, à aller sur ce sujet-là, du coup, vont facilement dire « Non, mais moi, je veux en fait un site avec plein d'images, un effet waouh, etc. » Et du coup, on n'est plus sur un site éco-conçu. Donc, la pédagogie rentre énormément en jeu et c'est toute cette première grande partie de la conception qui est le moteur. Si la conception embarque trop de fonctionnalités ou des fonctionnalités qui ne sont pas inutiles, on a un chiffre aujourd'hui qui nous dit que 45% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées sur un site. Donc, il faut essayer de savoir lesquelles ne sont pas pertinentes ou non prioritaires pour apporter un site le plus léger possible. Et du coup, plus léger dit aussi plus accessible pour plein de populations qui aujourd'hui ont très peu d'accès à Internet. Le plus léger possible et également... faire en sorte que notre device, le terminal qui va être utilisé par l'usager, dure aussi le plus longtemps possible. Parce que si on charge un site qui est lourd, on va avoir tendance à se dire « Ok, tous les deux ans, je vais changer mon terminal parce qu'il est lent. » Alors qu'en fait, ce n'est pas le terminal qui est lent, c'est le site qui va être lourd à charger. Et on sait aujourd'hui, avec le numérique, que c'est le changement des terminaux, le changement des devices qui pollue le plus. Donc, il y a un enjeu terrible de pédagogie et de questionnement en amont avant de réellement rentrer dans la refonte du site.
Et est-ce que ce n'est pas le rôle, en partant d'ailleurs, d'un designer UX? Et là, j'entends pas nécessairement quelqu'un qui est mandaté pour faire du beau, mais un designer dans la simplification, en théorie, s'il fait bien son boulot, devrait arriver à ces objectifs-là aussi, non?
Alors, c'est tout à fait à la croisée des chemins. C'est une bonne question. C'est-à-dire que les plus à même aujourd'hui d'aller vers l'éco-conception, ça semble être plutôt les concepteurs web, enfin les designers, etc. Parce que ça rejoint la simplification qu'on va pouvoir rechercher dans le design d'expérience utilisateur, de façon à avoir moins de bruit sur un site web, moins de fonctionnalités, etc. pour mieux guider l'utilisateur. Ça va aussi rendre service à des gens qui vont être en situation de handicap, notamment visuel ou cognitif, où là aussi, la recherche de simplification, elle va être importante. Ça rejoint aussi tout le travail qu'on va avoir quand on est en mode startup de MVP, le Minimum Viable Product, d'essayer d'avoir quelque chose avec un périmètre qui va être plus réduit et donc plus facilement être développable. Et ça rejoint aussi des logiques de performance. Donc, c'est-à-dire que plus on fait quelque chose de léger, plus c'est intéressant en termes de performance. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est des choses qu'on fait déjà. Sauf que on le fait, mais avec un peu de peine, parce que c'est pas toujours facile de faire comprendre aux commanditaires des sites, les gens qui vont nous passer commande en fait, ce serait peut-être pas mal de finalement ne faire que 30% de la liste de tout ce qu'ils ont demandé, parce que finalement le reste, il n'y en a peut-être pas autant besoin que ça. Donc l'éco-conception est un nouvel argument pour tirer vers ça. Et l'avantage de l'éco-conception, c'est que on peut le chiffrer assez facilement, l'impact que ça va avoir. On a des services comme ceux que propose Green IT, l'éco-index, qui vont permettre de calculer le poids d'une page, par exemple. Et donc, du coup, de voir que, voilà, on peut gagner X% d'émissions en gaz à effet de serre, par exemple, parce qu'on a simplifié l'interface. Donc, comme c'est quantifiable, c'est intéressant. Et comme c'est à la croisée des chemins, c'est plus facile à faire. C'est pas si dramatique que ça de se dire oh, tiens, on va à l'éco-conception. C'est pas si compliqué. C'est juste une démarche vers laquelle il faut aller et qui rejoint ce qu'on fait déjà.
Et ce qui est éco-conception aujourd'hui, c'est aussi la façon dont on développait dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000. On faisait volontairement des images extrêmement légères parce qu'on les voulait faciles à télécharger, parce que c'était des contraintes technologiques à l'époque. Maintenant, on les a moins. J'ai l'impression peut-être même que les designers se cassent un peu moins la tête à faire des images légères. Donc, il faudrait, entre autres, rééduquer les designers eux-mêmes ou la nouvelle génération de designers à remettre beaucoup d'emphase sur des images qui sont très optimisées pour le web, finalement.
Ouais, pardon. Aujourd'hui, nos logiciels comme les possibilités du réseau nous permettent de faire presque tout ce qu'on veut, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, les sites qui vont gagner des awards, par exemple, ça va être les sites où on va lancer le site et on a déjà un chargement. On voit déjà qu'on a un chargement parce qu'il y a toutes les animations qui arrivent derrière. Alors, c'est cool, c'est extrêmement créatif et c'est bien. Il ne faut pas s'empêcher d'être créatif. Et je ne veux surtout pas qu'on imagine que l'éco-conception, c'est l'inverse de la créativité, parce que ce n'est pas vrai. C'est une créativité avec des contraintes différentes. Et le design, c'est créer avec des contraintes.
C'est la même chose avec l'accessibilité, par ailleurs.
Voilà, il y a beaucoup c'est ça.
De qui disent, mais ça va contraindre ma créativité de faire quelque chose pour les gens qui sont daltoniens ou autres.
Et en fait, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on créait des sites avec dans le cadre des limites techniques, et aujourd'hui, il faudrait concevoir dans le cadre des limites planétaires, en fait.
Oh, c'est bien dit, ça. J'en ferai un T-shirt. C'est intéressant. Mais c'est ça, ça ramène, je crois, aussi à des, peut-être pas une problématique, mais une conception qu'on a du UX design, où il y a beaucoup de nos collègues qui viennent d'écoles de design pur. Et le UX design est beaucoup un exercice aussi, comme on le disait tout à l'heure, de simplification, d'aller vers un
exercice
intellectuel, de priorisation aussi, qui est pas nécessairement une priorité dans les écoles de design qui font, si tu peux me permettre de le dire, de simplifier, qui font du beau, là.
Aujourd'hui, dans les écoles de design, j'ai l'impression, alors je les connais pas toutes, hein, mais de celles qu'on a pu voir, on a tous les deux fait une école d'art appliqué déjà. On a été jury quelques fois dans des écoles, et ce qu'on constate, c'est qu'on leur apprend très 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 bien à être créatif. On leur apprend très 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 bien à se servir des outils. Par contre, on leur apprend pas vraiment la simplification et même le design d'expérience utilisateur dans les écoles d'art appliqué. C'est pas forcément le mot est employé. On parle du X, mais là, c'est pas traité dans le périmètre que ça devrait être.
Et est-ce que vous accompagnez également vos clients dans cette sobriété numérique? Parce que là, on parle seulement du web ou du site web en général, mais on sait que les gens sont beaucoup conseillés aussi d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram, d'aller sur toutes les plateformes numériques autour de leur site web qui amènent les gens vers leur centre numérique, si on veut. Est-ce que vous les conseillez aussi à ce niveau-là dans un sens plus large de l'expérience numérique? De la sobriété numérique, devrais-je dire?
Ben disons que l'éco-conception, ça s'inscrit dans la sobriété numérique. Donc oui, quand on aborde la sensibilisation, on en parle forcément parce que ça fait partie un petit peu du contexte finalement de cette démarche. Maintenant, les projets qu'on fait en éco-conception aujourd'hui, c'est parce que c'est des clients qui nous ont identifiés comme étant à même de faire des sites éco-conçus. On n'est pas encore dans le cadre, ça arrive, mais c'est plus à la marge, sur les projets de leur dire bon, là voilà, vous nous avez demandé ce projet, mais ce serait bien qu'on le fasse de façon éco-conçue, parce que s'ils sont pas venus avec ce sujet, souvent c'est qu'ils y sont pas trop sensibilisés. Mais en même temps, je pourrais presque me dédire, parce que par exemple en accessibilité aujourd'hui on le fait. Quelqu'un qui vient nous voir pour un site où il a pas demandé d'accessibilité, il a pas tout à fait le choix, parce que de toute façon ça fait partie de nos process. C'est juste qu'aujourd'hui c'est peut-être encore un peu trop jeune, et je pense que petit à petit, par exemple nous pour les designers, on a une checklist de design, c'est-à-dire qu'il y a tout un nombre de choses que l'on doit faire pour que notre site respecte les gages de qualité qu'on a donné, et dedans il y a toute une liste liée à l'accessibilité. Donc demain, il y a fort à parier qu'on arrive à peu près au même sur l'éco-conception. Aujourd'hui, on fait de l'éco-conception sur mesure, on le fait pas de façon standardisée sur tous les sites, mais ce serait la prochaine étape, effectivement.
Il faut pouvoir le faire, et c'est vrai que pour le coup on a peu de clients qui aujourd'hui nous demandent d'avoir une vision globale sur tout leur support de communication. puisque l'éco-conception, c'est pas que sur le web, c'est aussi, ça peut être, on en a discuté la semaine, il y a 2 semaines de ça, lors des mardis graphiques sur lesquels on a intervenu, mais l'éco-conception, c'est aussi valable pour le print, c'est du coup valable pour l'usage qu'on a des réseaux sociaux, en tout cas la sobriété numérique, et tout ça, c'est... Enfin, il y a beaucoup de choses autour du site web. Et pour le coup, là, on n'a pas eu l'occasion, en tout cas, de pouvoir conseiller nos clients sur une stratégie globale comme ça.
Ça va venir. On va le faire connaître et les gens vont le savoir. D'ailleurs, pour terminer, si les gens veulent suivre ce que vous faites, je sais que vous faites des événements. Est-ce qu'ils sont en ligne également? Est-ce que les gens peuvent participer de cette façon-là?
Si tu parles de notre atelier, on l'a donné dans le cadre d'un événement qui s'appelait la journée de la déco-conception en mai à Paris. C'était avec Betagouf, c'est les designers du gouvernement, Le Bon Coin et les designers éthiques. Et il n'y a pas eu de retransmission de. Il y a des retransmissions des conférences qui sont prévues, mais pas des ateliers. C'est toujours un peu compliqué à retransmettre. Par contre, on sera présent à Paris Web en octobre pour redonner le même atelier. Atelier peu ou prou, on fera sûrement des améliorations. Et donc là, il y a encore des places qui sont disponibles. Donc, j'ai pas d'action chez Paris Web, mais si vous voulez, vous pouvez prendre une place pour Paris Web. Et sinon, je peux aussi dire que avec Alizé, on anime un podcast, on co-anime avec d'autres designers de l'agence qui s'appelle Salut les designers. Et on a fait une petite capsule qui dure une quinzaine de minutes où on parle des méthodes que l'on applique sur cet atelier. Si ça vous intéresse, vous pouvez un petit peu vous y initier en écoutant ce podcast.
C'est à trouver donc sur LunaWeb.
Vous pouvez le trouver sur le site de LunaWeb, sur Spotify, sur SoundCloud. Je crois que c'est la capsule numéro 2.
Et c'est le podcast, c'est Salut les designers, ouais, c'est bien ça.
On va trouver ça et je mettrai la référence sur Twitter.
Okay. Super. On pourra donner le lien si tu veux.
Parfait. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
Ben, merci beaucoup.
Merci
à toi,
Jean-François.
Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.